Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Buffy.
Malgré une restauration HD et un reformatage de l'image incohérente et que les principaux intéressés ne soutiennent absolument pas, malgré les innombrables autres séries ados qui pullulaient à l'époque, de Charm à Roswell en passant par Dawson, malgré les presque 15 années qui se sont écoulées depuis la fin de la saga sur le petit écran, Buffy contre les vampires, que l'on peut toujours revoir en intégralité sur le service de série à la demande Fox Play, a laissé une marque indélébile qui va bien au-delà de l'adulation pour sa star Sarah Michelle Gellar. Disséquer, étudier, analyser Buffy est un des meilleurs exemples d'une série qui transcende non seulement l'attente initiale d'un public pour l'entraîner dans un autre territoire, mais aussi d'une production qui sait faire exploser les contraintes et s'en sert pour toucher au cœur et créer un vrai lien avec les spectateurs. À la base, Buffy a la structure d'un classique film d'horreur. Des vampires monstrueux qui s'attaquent à de jeunes personnes sans défense et qui hurlent, sauf que l'une de ces blondes qui est victime leur fait face et les réduit en poussière. Buffy, c'est la Slayer, la tueuse de vampires, l'élue. Il n'y en a qu'une, elle est activée en quelque sorte à chaque génération dans le but de tuer des vampires. Mais comme Buffy est aussi une jeune fille, son rencard du soir est aussi important à ses yeux que de sauver le monde d'un démon. En profondeur, la série parle du passage de l'adolescence à l'âge adulte, des premiers émois amoureux, des choix et des contraintes pour une pléiade de personnages. Buffy, c'est la création de Josh Whedon, et Buffy, c'est Sarah Michelle Gellar. À ses côtés, Xander Harris, interprété par Nicola Brandon, dont c'est le premier rôle, Rupert Giles, le bibliothécaire, qui est aussi le mentor de Buffy, l'observateur, alias Anthony Stewart Head, Willow Rosenberg, incarnée par Alison Hannigan, la geek de service, imbattable avec un ordinateur et qui va petit à petit s'initier à la sorcellerie. Et Cordelia Chase, incarnée par Charisma Carpenter, la pimbèche de service. Nous sommes à Sunnydale High, en Californie, qui s'avère être située juste sur The Hellmouth, la bouche de l'enfer, une porte vers une autre dimension peuplée de monstres qui n'attendent que le bon moment pour envahir notre monde. Dans cette saison 1, l'ennemi de Buffy, c'est le Master, interprété par Mark Midcalf et Luke, son homme de main. Buffy et le gang vont affronter Luke, ils vont aussi affronter une sorcière, une mante religieuse humaine, un robot démoniaque, des ensorcellements, une poupée maléfique, bref. Et c'est au cours de cette saison qu'apparaît Angel, interprété par David Boreanaz, un vampire avec une âme. Dans le très sombre épisode final de la première saison, le maître parvient à vaincre Buffy et à ouvrir les portes de l'enfer. Mais la tueuse de vampires est ressuscitée par Xander et parvient à éliminer son ennemi. Dès le troisième épisode de la saison 2, arrive à Sunnydale Spike, interprété par James Marsters, et Drusilla, incarnée par Juliette Landau. Juliette Landau, oui, c'est la fille de Martin Landau. L'acteur oscarisé, héros de Mission Impossible et de Cosmos 1999. Avec une apparence très fortement influencée par celle de David Bowie, Spike est à la fois dangereux et ironique. C'est un vampire qui a déjà éliminé deux tueuses par le passé. Dans l'épisode Surprise, qui est le symbole de la double lecture que Whedon donne à la série, Buffy couche avec Angel et cela transforme le gentil vampire ténébreux en méchant tueur avide de sang. Angelus. Angelus, Angel devenu malfaisant, va donc se joindre à Spike et Drusilla, aux grandes âmes de Buffy. Le symbolisme de la perte de virginité et du traumatisme que cela représente est évident, et la suite de la saison explore tous ces sentiments. Pour Josh Whedon, il faut que la série, aussi fantastique soit-elle, soit émotionnellement identifiable. C'est d'ailleurs cette vision que nous a confirmée et détaillée Josh Whedon en personne quand Roman Gita et moi-même l'avons interviewé en 2014.
Everything is only ever about the emotional journey.
Le cœur de tout, c'est l'aventure émotionnelle.
If you're not invested in what's going to happen to the
person, si vous n'êtes pas investi dans ce qui arrive à la personne, alors peu importe comment ils sautent, combien de choses explosent, à quel point la musique est belle, rien de tout cela n'aura d'importance. Au final, l'investissement à chaque instant dans les personnages est la seule solution. Avec un peu de chance, on réussit à créer quelque chose qui est plus que de la simple addition de ces parties. Je ne veux pas juste dire qu'on va mettre des émotions et des larmes et des rebondissements jusqu'à ce que ça soit à court d'idées. Ce que je cherche, c'est une structure, un fil rouge, pas forcément un message précis, mais au moins l'évocation de quelque chose.
If not message, then evocation of something. With Buffy every year, we had a different mission statement every year. This is the year.
Avec Buffy, chaque saison avait son thème. Une saison sur la première année à l'université, l'excitation, les doutes, le sentiment de liberté, et une saison sur le fait de quitter sa famille, qui, quoi qu'il arrive, sera toujours là et nous ramènera toujours à elle.
Liberating. This is the year you realize you're You've left your family, but you're never going to leave your family. They're always going to be.
Des couples vont donc se former. Buffy avec Angel, donc, mais aussi Giles et Jenny, Willow et le jeune Oz, Seth Quinn, un loup-garou, et Xander avec Cordelia, dans une relation amour-haine qui a commencé à la fin de la saison 1. Buffy va découvrir une autre tueuse, Kendra, incarnée par Bianca Lawson. Et dans le dernier épisode, en deux parties, extrêmement ambitieux, qui clôt la saison, Angel, Spike et Drusilla torturent Giles. Nous voyons les origines du vampirisme d'Angel, son premier contact avec Buffy. Kendra se fait tuer. La mère de Buffy découvre que sa fille est la tueuse. Et enfin, grâce au sortilège de Willow, Angel redevient provisoirement lui-même. Juste assez longtemps pour que Buffy le poignarde et l'expédie en enfer. La saison se termine donc sur une note tragique. L'ennemi central de la saison 3, c'est le maire de Sunnydale, un démon qui attend son avènement. Un avènement qui lui permettra d'acquérir des pouvoirs quasi illimités. Et ses liens sont avec le directeur du lycée, le principal Snyders, interprété par Amin Shimmerman, déjà très connu des fans parce qu'il était Quark dans Star Trek Deep Space Nine. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, le maire va attaquer les étudiants, mais sera vaincu par tout le lycée. Buffy, après s'être exilée et s'être fait passer pour une serveuse dans un diner, va faire équipe avec Faith, une autre tueuse de vampires incarnée par Issa Dushku. Sauf que Faith va se révéler être happée par ses instincts de violence et son goût du sang. Elle finira par s'allier au maire. Un nouvel observateur, Wesley, interprété par Alexis Denisoff, va rejoindre l'équipe pour aider Buffy et Faith. Angel va sortir de l'enfer où il a été enfermé, puis quittera Sunnydale pour Los Angeles et pour intégrer sa propre série, Angel. Il va y monter une agence qui combattra les démons et y emmènera Cordelia. Le lycée a été ravagé par le maire, qui s'est transformé en démon à la fin de la saison. Ça tombe bien, Buffy va maintenant pouvoir aller à l'université. Dans la saison 4, Buffy va donc s'opposer à l'Initiative, une section secrète de l'armée censée lutter contre le mal. En fait, en secret, elle mène des expériences absolument détestables, extrêmement cruelles. Ils vont jusqu'à implanter une puce dans le corps de Spike pour l'empêcher de nuire. Mais comme il faut un grand méchant, ce coup-ci, il s'agira d'Adam, un démonoïde biomécanique, une espèce de créature de Frankenstein conçue par une branche dissidente de l'Initiative. Buffy va rencontrer et tomber amoureuse de Riley, un jeune étudiant qui en fait partie de l'Initiative. Willow, quant à elle, rencontre et tombe amoureuse de Tara. C'est dans cette saison que l'on peut voir un des meilleurs épisodes de la série, Hush, un silence de mort, avec des méchants qui sont devenus mythiques depuis les Gentlemen, des personnages au rictus inquiétant qui semblent flotter dans l'air et ils captent les voix des habitants de Sunnydale. Donc c'est quasiment un épisode entièrement muet. Dawn, la sœur dont Buffy ignorait l'existence, arrive en saison 5. Et on a l'impression que, pour tout le monde, elle a toujours été là. Donc c'est quand même un peu curieux. En réalité, elle est la clé. Une créature qui peut ouvrir un passage interdimensionnel. L'ennemi de cette saison a pour nom Glory. C'est une déesse qui aspire le cerveau de ses victimes. Spike, dorénavant en sa défense, à cause de la puce que l'Initiative lui a implantée, va intégrer le Scooby Gang. Ouais, c'est un peu comme ça dans la version originale qu'on appelle l'équipe autour de Buffy, en rapport avec les enquêteurs de la série animée Scooby-Doo. Spike va devenir l'amoureux transi de Buffy. Et un événement dramatique survient au cours de la saison. La mort presque naturelle de Joyce, la mère de Buffy. Cela est montré dans un épisode extrêmement puissant et remarquable, The Body, au titre français Orpheline, qui prouve, si besoin était, que la série va bien au-delà de son concept fantastique pour parler de personnages et des émotions qu'ils ressentent, et est le reflet des angoisses et peines de la vie. Josh Whedon nous a raconté l'impact qu'a eu cet épisode, particulièrement extraordinaire. Honnêtement, je n'ai jamais pensé à faire quelque chose d'aussi important que Orpheline. Je pense que probablement c'est ce que j'ai fait de mieux. Et ça me va très bien. Mais on ne peut pas vendre une série en disant « Ah, je vais faire un épisode sur la mort et le désespoir. » Ça se mérite. Avec David Greenwald, qui écrivait la série avec moi, on a appris dès le début que plus c'est humain, plus ça fait peur. Les démons ne feront jamais aussi peur que les motivations des humains. Donc dès le deuxième épisode, ça démarre comme quelque chose de très coloré, très axé sur le côté « le lycée c'est dur », comme dans un film d'horreur. Et puis ça devient quelque chose de plus profond et de plus sombre.
It turned from that into something deeper.
À la fin de la saison 5, Buffy est en pleine dépression. Elle a des problèmes financiers suite à la mort de sa mère et elle va se sacrifier pour sauver sa sœur et le monde. Comme il y a une sixième saison, vous imaginez bien que Buffy ressuscite. Et ça, grâce à un sortilège de Willow. Mais Buffy voulait-elle vraiment revivre et être extirpée de son paradis ? Les méchants de cette saison, les moins appréciés des fans, sont le trio. Jonathan, Warren et Andrew, trois personnages qu'on a déjà vus les saisons précédentes et qui s'unissent pour lancer des sortilèges et terroriser la ville. L'épisode Once More With Feelings, que la fête commence de cette saison, est une véritable comédie musicale. En raison d'un sortilège, personne ne peut plus s'exprimer qu'en chanson. Un peu comme dans un film de Jacques Demy, quoi. Spike va récupérer son âme par amour pour Buffy. Alex va s'amouracher d'une femme démon qui est devenue humaine, Anya. Il va même être question de mariage entre eux. Par contre, et là c'est dramatique, Tara se fait tuer par l'un des membres du trio. Willow est folle de douleur, elle va basculer, sombrer dans la magie noire et lancer des sorts démoniaques. Elle va tuer le meurtrier du trio, Warren, en le dépeçant vivant. Et elle va aussi élaborer un sort qui entraînera la fin du monde. C'est Alex qui finit par la raisonner. Dans la saison finale, la septième, Buffy est face à la force primale qu'elle a involontairement fait revenir. Celle-ci va assassiner des tueuses les unes après les autres et réunir un groupe de démons vampires que dirigera Caleb, un curieux prêcheur. Désertée par ses habitants, Sunnydale va voir la confrontation finale entre les tueuses survivantes et les vampires au cœur de la bouche de l'enfer. Certains, comme Anya, ne vont pas survivre à l'affrontement et Spike va se sacrifier pour mettre fin au combat. Le Hellmouth, la bouche de l'enfer, va absorber la ville tout entière. Buffy et le Scooby Gang s'enfuient à bord d'un bus scolaire.
Et côté coulisses, ça donne quoi ?
À la base de Buffy, il y a un film, écrit par Josh Whedon et réalisé par Fran Rubel-Kazui et produit par Kazui $100 Productions. Tout partait d'une idée écrite par Whedon, mais qui est restée sans suite, une idée qui s'appelait Rhonda la servante immortelle, avec une personne qui paraît insignifiante, mais qui détient un pouvoir extraordinaire. De cette idée est née Buffy, qui renverse les clichés de la jeune fille victime qui se fait attaquer par un vampire. Le film, sorti en 1992, propose Christy Swanson dans le rôle de Buffy, enfin Buffy ou Bichette dans la VF, parce que le premier titre français du film c'est, accrochez-vous, Bichette la terreur. À ses côtés, il y a Luc Perry, Donald Sutherland, Rutger Hauer et même Paul Rubens, à savoir Pee-wee Herman. C'est un film que Josh Whedon a toujours trouvé très éloigné de ce qu'il souhaitait faire. Pas mauvais pour autant, mais très éloigné quand même. La volonté d'en donner une version différente à travers une série télé est donc un peu une obligation pour lui. Il nous en a parlé en 2014. Tout ce que je peux dire sur le film, c'est que les gens s'en rappellent. Ils se rappellent du personnage, ils se rappellent de l'idée. Le résultat ne correspond pas à ce que j'avais en tête au départ. Mais en tout cas, je n'avais pas envisagé la série. En fait, la série était beaucoup plus ambitieuse que n'était le film. Le script du film était un pastiche. Une comédie d'horreur. Il prenait les codes et les conventions et les tournait en dérision. La série devait explorer et aborder beaucoup plus l'humanité des personnages que je ne l'avais fait avec le film. Aujourd'hui, quand je revois le film, j'y vois la graine de quelque chose qui devait grandir. $5 Productions, qui a donc produit le film, a pitché la série et, contractuellement, Josh Whedon est tenu d'être inclus dans l'adaptation. Il décide dès le début de s'impliquer et de montrer Buffy déjà pleinement en charge de ses fonctions de chasseuse de vampires, alors que dans le film, elle est initialement totalement ignorante, apprend à devenir une tueuse petit à petit au fur et à mesure de son entraînement. Mais évidemment, Buffy a toujours 16 ans et toutes les angoisses qui vont avec. Le projet de faire une série télé Buffy est proposé à NBC, qui refuse, et proposé aussi à la chaîne Fox, mais cette dernière a déjà plein de séries ados. Et quand il se retrouve face à Fox ou NBC, Whedon pitch la série en disant que c'est un mix entre les X-Files et Beverly Hills. Ou, quand il sent qu'il est en face de responsables un peu plus cultivés au niveau série télé, il évoque Angela 15 ans, la formidable et innovante série avec Claire Danes. Il s'avère que Whedon est fan de la série. Le titre de la série, aussi caricatural qu'il peut sembler, a été imposé par Whedon. Lui-même est un perfectionniste qui n'autorise personne à improviser quoi que ce soit dans ses scripts et qui insiste pour être en permanence sur le tournage. Comme la petite chaîne la WB a donné son feu vert, pour le rôle principal de la série, rien n'est simple, puisqu'il faut à la fois avoir le look blonde bimbo, mais aussi un peu excentrique, drôle et combattante. Katie Holmes et Selma Blair passent les castings, mais c'est son succès. Sarah Michelle Gellar, qui a déjà connu de nombreux rôles dans des productions depuis son enfance, comme Guillaume Tell ou le soap All My Children, est parfaite, car elle maîtrise aussi les arts martiaux. De passage à Paris pour promouvoir son film Sexe Intention, où elle interprète le rôle de la sulfureuse Catherine Merteuil, Sarah Michelle Gellar me parle de son premier contact avec Buffy.
Je revenais tout juste d'Australie où j'avais tourné un film et on m'a donné ce scénario pour un pilote qui était vraiment très bon. Du coup, j'y suis allée pour le rôle de Buffy et dès le lendemain, ils m'ont rappelé pour faire un test vidéo. C'est très rare que cela se passe aussi vite. Finalement, quelques jours après, ils m'ont rappelé en disant qu'ils me voyaient plus en Cordelia qu'en Buffy. Il voulait que je refasse un test vidéo pour Cordelia. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Je venais de passer 2 ans à jouer ce genre de personnage et je venais tout juste de m'installer à Los Angeles. Bref, ça ne m'intéressait pas. Et puis j'y réfléchis. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose que je voyais dans ce scénario. J'aimerais pouvoir mettre le doigt dessus, mais il y avait quelque chose dans ce scénario que je voyais. Du coup, je les ai rappelés et je leur ai dit « Ok, je le ferai ». J'ai fait 2 tests vidéo pour Cordelia et j'ai eu le rôle. Ils ont continué à chercher quelqu'un pour Buffy et un jour, ils m'ont proposé de venir à une séance de casting pour tenter le coup.
Et le reste, le reste vous connaissez. Malgré le fait que le film existait déjà, un pilote non diffusable de 25 minutes fut tourné, avec peu de budget, dans le but de convaincre les responsables de la chaîne WB. Feu vert fut donné, la série est lancée en milieu de saison en mars 1997, pour une première saison de 12 épisodes. Et la seule chose qui fut modifiée du casting entre le petit pilote de 25 minutes et la série, c'est l'interprète de Willow. Au départ, c'était Reef Regan, elle est remplacée par Alison Hannigan. Le tournage est un peu compliqué, parce que la série comporte au moins une bagarre mettant en scène Buffy, et pour les plus ambitieuses de ces bagarres, il faut au moins 2 journées de 18 heures chacune pour les chorégraphier, répéter et les tourner. Chaque épisode demande 8 jours de tournage, qui est assez traditionnel. Les studios sont situés à Santa Monica, avec les extérieurs tournés à Los Angeles pour le cimetière, dans lequel on voit souvent les personnages, ou la ville de Torrance pour représenter le lycée de Sunnydale. Même s'il est perfectionniste, aux côtés de Josh Whedon, il y a de nombreux scénaristes dans son équipe. Des gens comme Martin Oxon, qui avait déjà produit la fameuse série Angela 15 ans, dont Whedon est fan, Howard Gordon, futur créateur de 24 heures chrono et de Homeland, David Fury, qui travaillait ensuite sur Lost et Fringe, David Greenwalt, qui avait été sur les X-Files, et qui venait surtout de terminer une extraordinaire petite série qui s'appelait Prophet. Dès l'été, la 20th Century Fox, qui produit la série pour la chaîne CW, fait signer un accord global à Josh Whedon. Pendant 4 ans et pour $16 millions, Josh Whedon peut dorénavant développer ses projets au sein de la maison de production 20th Century Fox en exclusivité. Et cependant, Josh Whedon continue de s'impliquer à fond dans la série.
Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a complètement mis sa vie en stand-by pour la série. Il n'a pas été absent un seul jour. C'est rare de tout abandonner pour une série, pour quelqu'un dont la motivation première était le cinéma et qui a eu une nomination aux Oscars à son actif qui plus est. Mais je pense que cela se voit. Ça se voit vraiment.
À partir de la saison 2 et voyant le succès des X-Files, Whedon et son équipe de scénaristes feuilletonnent de plus en plus la série, tout en conservant ça et là le monstre ou la créature de la semaine. Avec le succès de la série, dès la fin de la diffusion de la saison 1, Sarah Michelle Gellar suit la route de la plupart des autres stars de série ado. Elle va tourner dans des films d'horreur comme « Souviens-toi l'été dernier »,« I know what you did last summer » et « Scream 2 ». Avec le succès de la série, un changement s'opère, mais derrière la caméra. Jusqu'alors, elle était tournée en 16 mm. Oui, ça fait un peu cheap. Et bien maintenant, la série sera tournée en 35 mm, comme toutes les autres séries télé de l'époque. Évidemment, cela va sans dire qu'on augmente un petit peu le salaire de tous les acteurs et actrices de la série. Le 20 avril 1999 eut lieu une véritable tuerie dans un lycée de Little Town. Deux élèves vont en tuer 13 autres pour ensuite se donner la mort. Ce massacre horrible, qui traumatisa le monde entier, eut un effet immédiat sur la série qui déprogramma deux épisodes. En effet, un épisode initialement programmé pour fin avril montrait un étudiant ayant l'intention de tirer sur les élèves. Mais aussi, le dernier épisode de la saison 3 montrait des lycéens affrontant le maire de la ville, transformé en serpent gigantesque. Celui-là, il fut diffusé deux mois plus tard. On peut se demander si cette précaution un peu extrême pour une série clairement imaginaire, on parle quand même d'un serpent géant là, n'était pas un peu démesurée. À la fin de la cinquième saison, les relations entre la Fox qui produit la série et la chaîne qui la diffuse, la WB, ne sont pas au beau fixe. Même Josh Whedon n'est pas très heureux du manque de promotion qui est fait à la série. Jusqu'alors, sur la WB, la série attire en moyenne 3 700 000 téléspectateurs chaque semaine, ce qui est assez faible. Mais comme la WB est une petite chaîne, la série se poursuit tant bien que mal. La série atteindra 4 400 000 téléspectateurs en moyenne pour sa saison 2000-2001. Jusqu'alors, le budget qui était alloué à la série par le diffuseur, la chaîne WB, est de l'ordre de 1 100 000 dollars. Et en fait, la série coûte presque 2 millions. Le reste, la différence, c'est la 20th Century Fox, la firme de production, qui en est de sa poche. Comme les dissensions et les problèmes économiques se font de plus en plus importants, la 20th Century Fox va donc à la pêche. Et elle parvient à faire accepter la série par la chaîne concurrente de la CW, UPN. Bon, c'est ironique, quelques années plus tard, les deux diffuseurs devraient être fusionnés en un seul, la CW. En effet, UPN propose aux producteurs 2 330 000 dollars par épisode, alors que la CW plafonne 1 800 000 dollars. Et donc voilà, fin de contrat, renouvellement sur une autre chaîne, si Buffy est morte à la fin de la saison 5 sur la WB, elle ressuscite donc au début de la 6 sur une nouvelle chaîne, UPN. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que, durant l'été, entre les saisons 5 et 6, Josh Whedon se décide à abandonner le rôle de showrunner de la série tout en continuant de la superviser et de s'impliquer. Mais le rôle de productrice pour gérer tout le quotidien revient à Martin Oxon. Whedon va donc prendre un peu de vacances et se souvient que la plupart des acteurs et actrices de la série sont d'excellents chanteurs et de très bonnes chanteuses quand ils s'amusent entre les prises. Il se souvient d'une séquence chantée à la fin de la saison 4. Finalement, parce qu'il est en vacances, mais qu'en vacances il travaille toujours, il se dit qu'il ferait peut-être bien de penser à un épisode entièrement chanté, du début à la fin, avec des numéros chorégraphiés. Whedon va donc écrire toutes les chansons, paroles et musique. Il va demander à Christopher Beck et Jesse Tobias de s'occuper de l'orchestration. Et l'épisode Once More with Feelings sera accueilli comme un véritable événement télévisuel. Signée pour deux saisons, la série fait 4 600 000 téléspectateurs sur UPN en saison 6 et tombe à 3 800 000 pour sa saison 7, mais elle cartonne sur les 18-24 ans. La saison 7 sera cependant la dernière, fin de contrat, y compris pour les acteurs. Après Buffy, Sarah Michelle Gellar a été Daphné dans les deux films adaptant Scooby-Doo et a lancé deux séries, Ringer avec une histoire de sœurs jumelles et The Crazy Ones que nous n'avons pas vu en France. C'était en 2013, une sitcom qui fut un des tout derniers rôles de Robin Williams. David Boreanaz a été dans Bones, le partenaire de Emily Deschanel, et maintenant le héros de Seal Team. Quant à Josh Whedon, il a enchaîné avec d'autres séries, pas simplement Angel, mais aussi Firefly, Dollhouse avec Eliza Dushku, qui était Faith dans Buffy, et est ensuite devenu le maître d'œuvre du Marvel Cinematic Universe avec Avengers et le succès qu'on connaît. Son succès avec Avengers lui permet de tourner entre deux blockbusters, oui, parce que vraiment, il se repose pas le monsieur, un petit film noir et blanc, adapté d'une pièce de William Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien. Généralement, il aimait faire lire cette pièce à tous ses amis acteurs et actrices pendant l'été, comme ça, vraiment pour le plaisir et le fun. Et voilà, il l'a carrément tourné, le tout dans sa propre maison de Santa Monica, et donc avec dans le casting, par exemple, Alexis Denisov de Buffy. Alors qu'un remake est envisagé, la série Buffy The Vampire Slayer reste intacte dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui se sont passionnés pour elle. Je vais laisser à Sarah Michelle Gellar le mot de la fin.
C'est une série géniale, elle est toujours surprenante. C'est toujours un défi en constante évolution et il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Alors l'ennui n'a pas le temps de s'installer. Joss n'a jamais peur de changer l'histoire, de la faire évoluer et de la faire grandir. Je m'estime très chanceuse de faire partie d'une série qui, je le pense, va rester dans les mémoires pendant un bon bout de temps.